9h23 minutes, Anthony Pratt-Lops avait 15 mois lorsque sa garde a été confiée à Monique Richer et son conjoint, avec qui il est demeuré jusqu'à ses 15 ans. Pour vous le rappeler, Anthony Pratt-Lops a plaidé coupable pour le meurtre de Daphné Huard-Boudreau, commis en mars 2017 à Saint-Hilaire, donc condamné à la prison. C'est un enfant qu'on pourrait qualifier d'enfant de la DPJ, qui est passé par le circuit de la protection de la jeunesse. Madame Richer est avec nous ce matin. Bonjour, Madame Richer.
Oui, bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, avant de parler du parcours, là, j'ai lu le dossier d'Anthony Pratt. Comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'il avait été arrêté et finalement, on le sait, la semaine dernière, condamné à la prison?
Oh, quand il a été arrêté, on était complètement dévastés. Là. On ne pouvait pas s'imaginer qu'un drame pareil allait survenir. Maintenant, pour ce qui était de ne pas aller en procès, évidemment, on était très soulagés, lui aussi.
OK. Vous avez gardé des contacts avec lui depuis l'arrestation?
Oui, toujours. On a toujours gardé des contacts avec Anthony. D'autant plus depuis qu'il est en prison, là, il nous appelle très régulièrement. Puis quand on va... en ville, alors on va le voir souvent.
OK, vous n'avez pas pensé à stopper les contacts, à mettre un terme à cette relation-là, malgré ce qui est arrivé?
Jamais, non.
Pourquoi?
C'est encore notre bébé. C'est encore mon petit homme. C'est un enfant qui a été terriblement investi. Hein? On a travaillé très, très, très fort. On a eu quand même un grand succès. On est très attaché à lui et vice-versa. Alors, non. Il nous considère comme ses parents, puis nous, on le considère comme notre fils.
OK. On va prendre ça du début de votre relation avec lui, là, quand il avait 15 mois. Comment il est entré dans votre vie? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça s'est passé?
Bien, on a d'abord été acceptés comme famille d'accueil. Ensuite, on nous a appelés en urgence en disant on a un bébé à sortir, parce qu'il a fait une autre famille d'accueil avant nous pendant 3 mois. Et là, on nous a dit, il y a un bébé qui est en urgence, qui est pas bien où il est, pourriez-vous le prendre? Alors, c'est comme ça qu'on s'est mobilisé terriblement rapidement là, avec nos proches et tout ça pour trouver ce qu'il fallait pour un bébé, parce qu'on s'attendait à recevoir un enfant de 3 à 5 ans. Maintenant, 15 mois, c'était un poupon, là. Ben, pas un poupon, mais un bambin.
Et qu'est-ce que vous savez de ses parents biologiques?
C'était déjà une enfant de la DPJ. La maman avait fait 18 familles d'accueil, 4 centres d'accueil. Donc, mais le problème a été qu'il a été placé chez la grand-mère biologique et qui a eu beaucoup de sévices et de manquements là, dans les soins donnés à Anthony.
OK. Si je résume, là, la mère, vous le dites, c'est un enfant de la DPJ.
Oui.
L'enfant a été retiré à la naissance, ou presque?
Presque. Il n'a pas été retiré, en fait. C'est elle qui l'a
abandonné.
Amené, abandonné, laissé à sa mère. Et la DPJ était d'accord. Mais ça, j'ai su ça tout dernièrement. Moi, j'ai jamais pu m'imaginer que la DPJ avait accordé à la grand-mère, qui avait déjà perdu ses 3 enfants, à la DPJ, qui accepterait de placer un bébé là.
OK, la grand-mère avait déjà avait perdu la garde de 3 enfants, puis on lui confie un bébé.
Exactement.
Et elle a fait...
Ça, j'étais pas au courant, là. On okay. m'avait pas avisé dans quelles conditions il était. On m'a pas dit qu'il y avait eu des sévices graves, physiques, psychologiques, qu'il avait subi, qu'il avait eu de la malnutrition sévère, etc. Là. Moi, j'étais pas au courant du tout. Alors, on s'est débrouillé, mon conjoint et moi, du mieux qu'on pouvait.
Est-ce que je comprends même que la grand-mère l'a abandonné, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en famille d'accueil et ultimement chez vous?
Exactement, exactement. Un jour, elle a appelé, elle a dit « ben je me suicide et puis je vais amener le bébé avec moi, donc venez le chercher tout de suite, j'en peux plus ». Il y avait peut-être 12 mois, là il a été 3 mois dans une autre famille d'accueil, puis ensuite chez nous. Donc il a fait plusieurs déplacements à ce bébé-là. Là.
Il était comment quand il est arrivé chez vous?
Bon, c'est ça. Dans un état que moi, je considère terrible. Alors, il y avait des marques d'eczéma là au sang, sur le corps. Il y avait des brûlures dans les oreilles. Ça, c'est un pédiatre qui nous a avisé de ça parce que nous, il est arrivé avec des prescriptions d'antibiotiques. Puis moi, je savais qu'il fallait quand même revoir un médecin pour voir si son état était bon et il croyait que c'est nous qui l'avions, qui avions fait ce genre de choses à cet enfant. Il a fallu lui expliquer qu'on était famille d'accueil. Donc, à part l'eczéma, les brûlures dans les oreilles, il y avait des problèmes de diarrhée constante qui ont duré plus d'un an. Donc, jusqu'à 2 ans et demi, il a toujours eu de la diarrhée. OK? Ensuite, le principal problème, en fait, c'était qu'il acceptait pas les soins, aucun soin. Il fallait pas le toucher. Donc, c'est assez difficile avec un enfant de 15 mois de pas y toucher. Il faut l'habiller, il faut le changer de couche, il faut le coucher le soir, le mettre dans une chaise haute. Il hurlait constamment. Et dès que quelqu'un le touchait, comme par exemple, j'avais un fils quand même qui avait 15 ans, quand il arrivait, il frottait le dessus de la tête. Bonjour mon tipette, et puis il se mettait à hurler, comme si mon fils l'avait blessé.
Sentiez-vous qu'il y avait un problème d'attachement, qu'il ne pouvait pas faire confiance aux adultes?
Ben ça, c'était clair, parce que dès qu'il y avait une intervenante qui venait à la maison, il se mettait le poing complet dans la bouche. Essayez de faire ça, là. J'ai jamais su comment il pouvait faire ça, mais il se mettait le poing dans la bouche comme pour s'étouffer. Alors, à un moment donné, il a fallu que je dise aux intervenantes, ben appelez-moi ou venez quand il n'est pas là, parce que c'est impossible. Là. C'est pas possible comment il est souffrant là, quand vous venez. Puis, il se frappait la tête entre les jambes, vous savez. Il avait pas de tonus musculaire. Et il pouvait aller se taper la tête. Puis, quand il trouvait que le plancher était trop mou, ben il allait dans les coins de mur, vous savez, où il y a des lattes en métal. Là. Hein? C'est plus dur. Ou le poêle, le frigidaire.
À quel moment il y a eu un vrai diagnostic? Là? Parce que là, vous êtes témoin de ça, de ces problèmes d'attitude, de comportement, d'agressivité. À quel âge là, on a fait un premier diagnostic dans son cas?
Bien, en fait, moi, je l'ai accompagné voir un psychiatre, un pédopsychiatre à l'hôpital Charlemagne. C'est moi qui faisais l'accompagnement. Et par contre, je n'ai jamais reçu, je l'ai lu dernièrement, je n'ai jamais reçu de la part de la DPJ le rapport. Et dans le rapport, on note les sévices physiques et psychologiques, et dans le rapport, on fait un diagnostic de troubles de l'attachement, de retard de développement, de TDAH sévère et tout ça. Ouais.
Il a quel âge à ce moment-là, m'avez-vous dit?
Il a 3 ans, puis il vient d'être médicamenté par un pédiatre relié à Sainte-Justine avec du Ritalin. Ça l'a aidé beaucoup, beaucoup, parce que c'était incroyable comment il pouvait se blesser ou faire des choses inconsidérées, comme se lancer en bas d'un balcon ou n'importe, là.
Mais est-ce que je comprends, Mme Richer, là, que vous avez le diagnostic à 3 ans, mais que, dans le fond, l'information médicale pertinente, c'est la DPJ qui l'a et pas vous?
Et ils ne m'en font jamais mention. Ils me disent, non, le docteur Bédard n'a jamais remis un rapport. On ne sait pas pourquoi. Alors, moi, dans le délai, évidemment, ça commence à m'inquiéter à l'entrée à l'école. Et j'ai fait une demande à Sainte-Justine pour qu'il soit évalué. Je savais même pas que le docteur Bédard avait remis un rapport 3 ans auparavant. Et par Michel Lemay, vous savez, Michel Lemay qui s'occupe de la pédopsychiatrie, en tout cas à l'époque, et il a accepté au centre de jour. Alors, pour la première année maternelle, il faisait 3 jours à Sainte-Justine, pour toute une année, là, et 2 jours à l'école régulière.
Madame Richer, là, si je résume son parcours, là, c'était un enfant qui avait toutes sortes de problèmes, c'était un enfant qui prenait des médicaments, c'était un enfant qui était... Et vous étiez tenu dans l'ignorance quand même, une bonne partie, là, par la DPJ.
Non, puis... complète,
OK. Oui. Puis vous l'avez accompagné jusqu'à ses 15 ans. Oui. Mais c'est 15 ans de problèmes à l'école, c'est 15 ans de problèmes de comportement. J'ai vu dans les documents qu'il refusait, et c'était même risqué, là, qu'un adulte lui touche, il était agressif. Vous avez même convaincu les policiers de faire une inscription dans le centre d'information criminelle.
Exactement, parce que moi et mon conjoint, on était extrêmement inquiets. Ça arrivait assez fréquemment quand même que les policiers intervenaient auprès d'Anthony pour toutes sortes de babioles là, concernant l'auto ou des choses plus graves aussi. Donc, on leur a dit, touchez pas Anthony, là. Dites-lui de collaborer. Ça, son père policier lui avait toujours expliqué que tu dis au policier, je collabore. Alors, il se levait, il disait, je collabore. Mais il nous passait le téléphone, tu sais, pour que nous, on communique avec les policiers. Alors, on a commencé à être très inquiets et on a ouvert un dossier de prévention, d'abord à Belle-Oeil, pour que tous les policiers qui interviennent auprès de lui soient au courant de sa problématique. Et aussi, pour étendre ça au Québec, parce qu'ils voyageaient, ils venaient sur la Côte-Nord, ou que ça arrive n'importe où, que ça soit inscrit au CRPQ, pour que tout le monde ait l'information.
Vous l'avez eu jusqu'à 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Pourquoi il vous a quitté à l'âge de 15 ans?
Il nous a quittés parce qu'il y a eu une mauvaise adaptation ici sur la Côte-Nord. Ça a été difficile. Et il n'y avait pas de noir ici. Alors, imaginez
Les commentaires racistes, là.
Oui, c'est ça, les commentaires qu'il pouvait recevoir. Il a souffert beaucoup ici. Alors, on est retourné vivre à Longueuil un an. Mon mari est retourné travailler. Et on a essayé de le retourner à l'école secondaire où il avait commencé, mais le directeur n'a pas accepté.
Quand il a eu 18 ans, là, donc il sortait de la juridiction de la DPJ, qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça s'est passé?
Ben, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il est allé dans une autre famille d'accueil. On était très d'accord avec ça. On lui a dit, Anthony, si tu veux vivre dans une ville plutôt que de retourner sur la Côte-Nord, on reste tes parents. Alors, Noël, la fête, les vacances d'été, etc., on le voyait toujours, Anthony, là. Bon, même, on le visitait dans sa nouvelle famille d'accueil. Mais il a été mis en appartement à 17 ans par la DPJ.
Et là, il n'est pas capable de se débrouiller, là.
Non, et c'est horrible, sans suivi psychosocial, sans absolument rien. Bonjour Anthony, tant mieux si ça va bien, puis tu as un travail, qui a gardé 2 mois là, supplémentaires. C'est ça. Ça a été très difficile. Et nous, on était très inquiets. On a continué de l'aimer, puis on va toujours l'aimer. Là, c'est viscéral. Et
Vous étiez inquiète de quoi? Qu'il pète une coche, qu'il fasse du mal à quelqu'un, qu'il se fasse du mal à lui?
Qu'il se fasse du mal à lui. Il a essayé quand même à quelques reprises. Non, il s'en prenait jamais à quelqu'un. Il s'en prenait pas à sa blonde de l'époque qu'on a beaucoup connue. Et non, jamais. Même si elle frappait, j'ai des témoins qui disaient, ils disaient, non, laisse l'affaire, moi je ne frapperai jamais une femme. Alors imaginez notre dévastation avec ce qui est arrivé avec Daphné, malheureusement.
Est-ce que vous en avez parlé de ce qui est arrivé avec Daphné, avec lui?
Oui. Oui, c'est très difficile, par exemple, il a perdu la carte complètement. Donc, il y a des grandes parties dont il ne se souvient pas. Et ça faisait plus qu'une semaine là, qu'il la cherchait désespérément partout. Il avait même avisé le papa, « Bon, ta fille, je la trouve plus. Moi, je suis tellement inquiète, je dors plus. Je la cherche partout, je la trouve pas, je sais pas où elle est. » Alors, il était dans un très mauvais état. Et moi, je l'ai senti, là, parce qu'on s'écrivait aussi sur Facebook régulièrement. Et à un moment donné, j'ai senti là, que ça allait vraiment pas. Je l'ai supplié d'appeler son médecin de famille. Qui avait promis là, de le voir en urgence puis de pouvoir le remédicaliser au besoin.
Et là, vous allez.
C'est ce qu'il a fait.
OK. Madame Richer, très clairement, vous allez toujours avoir le contact avec lui. Il n'est pas question de couper les ponts. Ça demeure votre fils.
Oui, exactement.
Merci d'avoir pris le temps ce matin, madame.
Merci beaucoup, monsieur Arcan.
Bonne journée. Monique Richer et la mère d'Anthony Pratt-Lops, famille d'accueil. Là, je veux préciser 2-3 choses avant que certains s'énervent, là. Ça ne cautionne en rien le geste posé. Ça ne vient rien justifier. Le geste est injustifiable. La justice a amené une sentence de prison sévère, peut-être pas assez aux yeux de certains, mais en tout cas, c'est un meurtre qui a été commis. Et elle a été assassinée, Daphné Huard-Boudreau, de façon horrible. On a parlé avec son père la semaine dernière. La raison pour laquelle on parle avec Mme Richer, c'est qu'on parle beaucoup de la DPJ ces temps-ci, puis on parle de parents qui sont irresponsables, puis de parents qui ne devraient pas avoir d'enfants, puis des parents à qui on devrait retirer les enfants au plus sacrant, quand ils sont carrément inaptes. Et on a vu des cas de jugement qui sont à faire dresser les cheveux sur la tête, parce que non seulement les faits sont renversants, mais en plus, on se rend compte qu'il n'y a pas de suivi. Mais dans ce cas-là, c'est un enfant, là, je rappelle, sa mère a fait 18 familles d'accueil. La grand-mère a perdu les 3 enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? On a retourné le bébé à la grand-mère. La mère voulait plus s'en occuper, puis un jour, la grand-mère a dit, « Moi non plus, je m'en occupe plus. » Fait quoi avec? Famille d'accueil. C'est un enfant bébé qui a toutes sortes de problèmes, bien sûr, d'attachement, puis c'est un enfant qui a eu son lot. Puis pendant ce temps-là, vous avez une famille qui tente de s'en occuper, puis la DPJ dit pas tout, donne pas l'information. Puis c'est ça le parcours. Puis quand, à cette époque-là, je dis pas que c'est encore comme ça, mais à l'époque, là, t'arrivais à 18 ans, bye, arrange-toi dans la vie. Et savez-vous où à Montréal on les retrouvait? Parc Émilie-Gamelin. Moi, j'en ai vu, j'ai même fait un sondage. Il y avait plein de kids qui étaient installés au parc Émilie-Gamelin. Je disais, il y en a combien qui sont passés par la DPJ? C'était une majorité. Fait que, je pense que c'est important de mettre ça en perspective. Les parcours de ces enfants, puis combien de courriels je reçois. Tu sais, quand tu pars dans la vie avec une mère folle, une grand-mère folle, irresponsable, puis là, ça dérape, puis t'arrives à 18 ans, puis ça justifie rien. C'est pas là pour expliquer pourquoi une jeune femme innocente a été tuée. Ça montre comment le parcours d'un enfant magané peut durer sur de nombreuses années. Puis j'insiste là-dessus, là, avant que vous m'écriviez en disant que c'est effrayant. Puis pour Mme Richer, là, ben, ça demeure son fils. Je ne peux pas dire d'autre chose. 9h39, on va tout de suite passer à notre sujet de tribune téléphonique. Ça va être simple ce matin, c'est la consultation sur les signes religieux qui commence aujourd'hui. Avez-vous déjà hâte que ça finisse au mois de juin par une motion peut-être de Bâillon? En fait, est-ce que vous vous attendez à quelque chose de ce débat? Avez-vous l'impression que le débat va se passer de façon civilisée? Avez-vous l'impression que tout est réglé d'avance, que bref, il n'y a rien qui va changer? Et quand cette loi-là sera adoptée, est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait des contestations? Autrement dit, est-ce que c'est une consultation et l'adoption d'un projet de loi qui va mettre un terme à ce débat qui n'en finit plus au Québec sur les signes religieux? 514-790-9850. 514-790-9850. Pensez-vous qu'on en a bientôt fini avec le débat sur les signes religieux? C'est le temps de vous exprimer. C'est notre consultation, si vous voulez. 514-790-9850.